Le journal Loïc Barrière. La France affirme que Salah Hamouri doit pouvoir mener une vie normale à Jérusalem. Israël compte expulser l'avocat franco-palestinien dimanche. Entretien avec son épouse Elsa Lefort. En France, 60% des trains annulés ce week-end à la suite d'une grève lancée par les contrôleurs. Santé publique France s'inquiète des conséquences des trois épidémies qui circulent actuellement en France, une situation inédite. Aubervilliers accueille demain la pièce de Mohamed Kaki, Hakima 1962, je me souviens, occasion d'évoquer la mémoire de l'ancien président du MRAP, Mouloud Aounit, mais aussi de marquer le 39e anniversaire de la marche pour l'égalité. Enfin, à Goussainville, concert demain soir du chanteur Ali Amran. Il rendra hommage à l'un des pionniers de la chanson kabyle, Cheikh El Asnaoui. Par la voix du Quai d'Orsay, la France affirme que Salah Hamouri doit pouvoir mener une vie normale à Jérusalem. Selon son épouse, ses avocats ont été notifiés à l'oral qu'il serait expulsé dimanche. L'avocat franco-palestinien est détenu sans accusation en Israël depuis le mois de mars. Salah Hamouri ne dispose pas de la nationalité israélienne, mais d'un simple permis de résidence révoqué l'an dernier par les autorités israéliennes. Entretien avec son épouse Elsa Lefort.
On a été alerté que Salah allait être transféré devant un tribunal. Il s'avère que c'était pas vraiment un tribunal, c'était pas une audience comme on peut l'entendre dans le système judiciaire français. C'était plutôt un rendez-vous. Ce qui lui a été stipulé, c'est que et elle en a fait écho dans la presse israélienne, c'est que la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a signé la révocation de la carte de résident à Jérusalem de Salah et elle a également signé son expulsion vers la France qui, très probablement, devrait arriver ce dimanche.
Comment accueillez-vous, vous, cette décision ?
Après 20 années de harcèlement et d'injustice contre Salah Hamouri, c'est une injustice de plus qui s'ajoute à la longue liste de ce qu'il a vécu déjà depuis 20 ans. Et de ce que vivent des milliers de Palestiniens, parce qu'il n'est pas, un cas unique, bien au contraire, que ce soit les privations de mouvement, la détention arbitraire, l'éloignement de la famille, la surveillance, et maintenant cette expulsion forcée, ça touche de nombreux Palestiniens et Palestiniennes, parce que ça fait partie d'une politique généralisée de l'occupant envers les Palestiniens. Donc c'est révoltant, bien sûr. On n'a presque pas de mots, en fait, hein, pour qualifier cette nouvelle décision abjecte. Toutes celles et ceux qui connaissent ou qui ont pu rencontrer Salah savent à quel point Salah est attaché à Jérusalem. D'ailleurs, quand il avait été détenu pendant 7 ans, au cours du procès, les Israéliens avaient proposé un deal. Ils avaient proposé 7 ans de prison ou d'être expulsé en France. Et Salah, il avait dit les métros, sa patrie, pour en mettre loin. Donc, il avait accepté ce choix horrible, voilà, de... Alors qu'il aurait pu choisir la liberté en France, il avait choisi de rester en Palestine. Donc on peut imaginer à quel point ça doit être douloureux pour lui actuellement de s'imaginer avoir plus que quelques jours dans sa patrie et puis encore il est en prison, il n'est pas libre de pouvoir admirer les champs d'oliviers, aller se balader dans arpenter les rues de la vieille ville. De toute façon, la dernière année qu'il aura passé en Palestine. C'est derrière les barreaux, donc j'imagine même pas son état d'esprit et la colère. En tout cas, voilà, moi, c'est il y a un mélange de sentiments et il y a aussi la déception parce que voilà, la diplomatie française, elle a agi. On n'a pas de doute là-dessus, mais elle nous a même dit que le président Emmanuel Macron lui-même s'est saisi du dossier, donc on peut pas espérer. Un plus haut niveau d'action, mais ça n'a pas fonctionné visiblement. Donc c'est que les moyens n'ont pas été mis pour protéger ce franco-palestinien et pour lui permettre de vivre comme c'est son droit dans sa ville natale qui est Jérusalem. Donc il y a de la déception et c'est assez mitigé. Voilà, parce que bon, on nous dit au moins il sera libre, mais on n'est jamais libre quand on vit un exil forcé. Voilà, c'est une douleur que je ne peux même pas imaginer.
Et vous faites un lien ou non avec le contexte politique en Israël après les dernières élections législatives ?
On n'était pas très optimiste, c'est sûr, vu le gouvernement qui est toujours en place et l'ancien gouvernement. Bon, après, cette ministre-là, qui est une femme politique particulièrement... c'est une femme d'extrême droite qui a des propos qui sont particulièrement racistes et horribles envers les Palestiniens. Elle était depuis le début de la procédure de révocation du titre de résident de Salah. Elle a été impliquée dedans et elle était moteur de cette demande de révocation. Peut-être que elle. Avant de partir, puisque dans quelques temps elle ne sera plus ministre, puisque le nouveau gouvernement arrivera. Avant de partir, j'imagine que elle s'était fait un point d'honneur d'expulser Salah. Je sais pas. Après, effectivement, un des alliés de Netanyahou, Itamar Ben-Gvir, avait fait de l'expulsion des Palestiniens un de ses arguments de campagne. Donc c'est quelque chose, et c'est une mesure qui semblait être assez populaire. Donc voilà, c'est quelque chose qui, de toute façon, n'est pas du tout mal vu dans la société israélienne et à mon avis elle se faisait un point d'honneur à boucler entre guillemets ce chantier qu'elle avait commencé.
Vous estimez que c'est un échec pour la diplomatie française, cette décision ?
C'est certain, parce que déjà on peut se dire que c'était déjà un échec qu'un citoyen français soit détenu sans charge depuis 9 mois. Surtout que sous l'ère Macron, c'est la deuxième fois que Salah est en détention administrative. Il avait déjà passé 13 mois en 2017-2018. Les fonctionnaires ont peut-être changé, mais la ligne portée politiquement est globalement la même. Ça fait quasiment 2 ans plus même de détention administrative sous ce président. Et déjà, c'était un échec qu'un Français soit détenu autant de temps sans motif. Et qu'un Français soit à ce point-là harcelé, touché dans sa vie quotidienne, des restrictions de mouvement qui l'empêchaient notamment de venir voir nous-mêmes sa famille. Moi, je suis interdite d'entrer en Palestine, donc il y a vraiment un harcèlement qui est depuis des années qui est tourné vers Salah, et la France a pas su protéger Salah. La France n'a pas su en faire un citoyen envers qui Israël aurait pu avoir des réticences à agir, en se disant « Ah ben non, attention, la France sera derrière pour le défendre ». A priori, Israël ne s'est pas dit ça du tout. C'est un échec, et en même temps, ça pose la question de, bien que on nous a dit que des choses avaient été faites, ça pose la question de savoir avec quelle conviction et avec quelle force de persuasion les choses ont été menées, effectivement.
Parce qu'il s'agit d'une expulsion qui est définitive, dites-vous.
Oui, le fait que son titre de résidence à Jérusalem soit révoqué, désormais, dans quelques jours, Salah ne sera plus que français. Donc, il n'aura plus aucun droit, aucune... légalement, de vivre à Jérusalem, mais même d'entrer aussi bien dans ce qu'on appelle Israël ou en Cisjordanie, puisque Israël contrôle ici les frontières, et il n'aura même pas le droit d'y aller pour des visites, du tourisme ou pour visiter sa famille. Il est devenu un étranger, et du coup, Israël se permet de le bannir totalement.
Elsa Lefort au micro de François-Xavier de Calonne. La triple épidémie à laquelle fait face la France actuellement est complètement inédite. Son évolution est encore difficile à prévoir. C'est ce qu'affirme Santé publique France. La France est confrontée à la fois au Covid, à la bronchiolite et à la grippe. Pour Santé publique France, cette situation est inquiétante parce que l'addition de ces pathologies peut entraîner un impact clinique assez fort, notamment sur les hôpitaux. Le Téléthon fait son grand retour après 2 éditions perturbées par le Covid-19. Durant ce week-end, les Français seront invités à donner de l'argent pour la recherche médicale contre les maladies rares. Le parrain cette année est l'acteur Kev Adams. Pour effectuer une promesse de don, il faut composer le 36-37. Elisabeth Borne donne des détails sur la future réforme des retraites. La première génération concernée sera celle née au deuxième semestre 1961. C'est une annonce de la première ministre aux Parisiens. Elle précise que le dispositif sera assoupli pour les carrières longues. L'Assemblée nationale vote le triplement des sanctions pour les squatteurs. Les personnes qui occupent illégalement un logement risquent désormais jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Attention, si vous avez prévu de voyager en train ce week-end, une grève a été lancée par un collectif de contrôleurs. Le trafic des TGV et des trains intercités est très perturbé. La SNCF a dû annuler 60% de ses trains entre vendredi et dimanche. Le dramaturge et comédien Mohamed Kaki présente sa pièce 1962, je me souviens, demain samedi à Aubervilliers, un spectacle joué à l'occasion de la Marche pour l'égalité qui était arrivée à Paris le 3 décembre 1983. Occasion aussi de rendre hommage à Mouloud Aounit, ancien président du MRAP. Je vous propose d'écouter Mohamed Kaki.
Notre dernière, c'est le 17 décembre, mais le 3 décembre, c'est un moment important puisque c'est aussi l'anniversaire de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Et donc, le 3 décembre, nous l'avons dédié à un hommage à Mouloud Aounit, qui a disparu il y a 10 ans et pour lequel, justement, la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme était quelque chose de très important pour lui et pour nous tous, mais aussi cette pièce de théâtre qui parle du 17 octobre 1961, dont l'engagement de Mouloud Aounit a été très important. Et donc, nous allons jouer à Aubervilliers, donc sa ville où il a grandi, hein, Mouloud Aounit, et pour lui rendre hommage donc à l'espace Renaudy, parce que c'est très important de rendre hommage à des hommes comme Mouloud Aounit qui ont beaucoup compté, qui ont beaucoup fait pour nous, les Français héritiers de l'immigration coloniale, mais aussi pour l'ensemble des gens du monde qui souffrent, puisque Mouloud Aounit s'est battu pour contre les injustices dans le monde entier. Le 3 décembre, nous rendons hommage à Mouloud Aounit. Et le 17 décembre, précisément, 2022, puisque c'est notre dernière pièce de théâtre, eh bien, nous rendrons hommage à un homme important aussi, qui s'appelle Jean-Luc Elodie, qui est l'auteur de La Bataille de Paris. Et c'est important à chaque fois de ne pas les oublier, de se souvenir que c'est aussi grâce à des femmes et des hommes comme eux qui ont été très courageux, et bien que nous avons résisté collectivement pour la justice, la liberté, la fraternité, l'égalité.
Mohamed Kaki, il présente sa pièce 1962, je me souviens, demain à Aubervilliers. Le chanteur Ali Amran revient sur scène samedi soir avec un nouveau concert en hommage à Cheikh El Asnaoui, un concert qui aura lieu à l'espace Sarah Bernard dans le cadre du festival Africolor, c'est à Goussainville. Ali Amran a commencé sa carrière près de Tizi Ouzou en Algérie avant de jouer avec Idir, on l'écoute.
C'est un peu ambiance rock, folk, c'est de la musique kabyle, nord-africaine, c'est-à-dire la mélodie, c'est dans cet esprit-là, et la musique, l'accompagnement, c'est dans l'univers harmonique, un peu rock, folk.
Alors comment avez-vous commencé votre carrière de chanteur? Quand cela a-t-il débuté? C'était dans les années 90?
Oui, j'ai toujours joué à de musique, hein, mais oui, vers la fin des années 90, j'avais pris la décision de faire ça en tant que métier, et donc à ce moment-là, j'ai arrêté les études et je me suis engagé dans la musique.
Et donc vos premiers enregistrements, c'était en Kabylie?
Oui, c'est Erzurum, c'est une petite ville là-bas, pas très loin de Tizi Ouzou, c'est là-bas que j'avais fait mes premiers enregistrements. Déjà, il y a l'influence, on va dire, de la musique traditionnelle de Kabylie, d'Algérie, enfin nord-africaine. Et puis, un peu plus tard, j'ai découvert la musique occidentale, rock, folk, pop-rock et tout ça. Et donc, c'est entre ces deux pôles-là que ça se passe. J'ai commencé par tourner un petit peu là-bas en Kabylie à l'époque, quand j'avais commencé. Et là, maintenant, bon, je suis installé en France, donc je tourne aussi ici en France et je repars parfois aussi, bien sûr, en Algérie pour jouer. Je ne sais pas comment naissent les chansons, hein. Parfois comme ça, ben, on est en train de travailler, il y a une petite idée, et à partir de là, on commence à développer un peu, on cerne un peu le sujet, et puis on travaille dessus.
Pour vous, il est aussi important d'avoir des collaborations avec d'autres artistes ?
Ah, c'est toujours intéressant, oui. On découvre toujours une autre façon de travailler, d'autres inspirations, donc ouais, c'est bien. Moi, j'ai fait ça un peu... j'ai fait une collaboration avec Idir avant qu'il, bien sûr, enfin il y a quelques années, hein, c'était en 2009, et il était venu chanter une chanson avec moi sur mon album Aquí d'Amour, qui était sorti à cette époque-là, en 2009, et d'autres aussi, avec des musiciens aussi, donc ouais, c'est important.
Idir, c'est une référence essentielle pour vous ?
Oui, pas seulement pour moi, je pense, hein, parce que... c'est un peu le représentant de la musique moderne des années 70, on va dire, en Kabylie évidemment, mais plus généralement en Afrique du Nord.
Aujourd'hui, la chanson Kabyle, en France, elle se porte bien, il y a toujours un public fidèle.
Il y a un public, ouais, effectivement. Mais après, globalement, la musique Kabyle se passe dans les espaces communautaires Kabyles. Et c'est un peu dommage parce que on est parfois en plein Paris, on est en France en tout cas. Globalement, elle reste un peu dans la communauté. Et ça, c'est dommage parce que on est dans une capitale culturelle comme Paris. C'est bien que les choses soient un peu, comment dire, partagées par tout le monde et décloisonnées.
Vous pouvez nous dire un peu ce que vous allez chanter lors du festival Africolors?
C'est un nouveau projet que je vais présenter le 3 décembre à Goussainville pour le concert d'Africolor. Et c'est toujours dans la même démarche, en fait. C'est un hommage à un grand artiste, enfin une sorte de pionnier, père fondateur de la chanson Kabyle, qui s'appelle Cheikh El Hasnaoui. Cheikh El Hasnaoui qui a vécu une grosse partie de sa vie, enfin au moins la vie professionnelle en tant que musicien, à Paris, à partir de la fin des années 30, et qui a fini sa vie à l'île de la Réunion.
Le chanteur Ali Amran, il se produit ce samedi 3 décembre à 20h à l'espace Sarah Bernard à Goussainville. L'invité de Pluriel ce vendredi à 19h et 23h est Geoffrey Carvalinho, conseiller régional d'Île-de-France, élu de la ville de Pantin et de la Seine-Saint-Denis. Et puis samedi à 11h et 23h, l'invité de la bibliothèque de Radio-Orient sera Farah Khodja pour un livre publié aux éditions Face Cachée, récit d'Algérie, témoignage de nos aînés de la colonisation à l'indépendance. Cette édition est terminée. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.